Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Jean-Pierre Boris, qui est journaliste et rédacteur en chef à RFI. Ah là là, je sens que je me suis lancée dans une galère. J'ai invité un vrai journaliste radio, c'est bien la première fois. En tous les cas, il a écrit un livre qui s'appelle « Commerce inéquitable, le roman noir des matières premières » aux éditions Hachette Littérature RFI. Et je voulais vous demander, finalement, comment se fixait le prix des matières premières? C'est une grande question que j'avais au fond de ma besace depuis presque 5 ans. Et bien voilà, je vais enfin avoir les réponses.
Oui, c'est une grande question et une vaste question. Je peux pas, je veux dire, toute l'émission va y être consacrée, si j'ai bien compris. Donc, je vais pas répondre comme ça en une minute. D'abord, peut-être dire ce que sont, ce qu'on appelle communément les matières premières, parce que peut-être que pour tout un chacun, l'eau, l'air sont des matières premières. Et non. Ce qu'on appelle matière première en langage économique, dans la langue du commerce, ce sont des produits qui sont reproductibles à l'identique aux quatre coins de la planète et qui sont l'objet d'un commerce international. C'est-à-dire que, par exemple, on pourra considérer que la lentille est une matière première, puisqu'il s'en cultive un peu partout dans le monde et qu'il y a des échanges internationaux. On pourra considérer que le cuivre, bien sûr, les grands métaux sont les matières premières, mais l'eau, à laquelle je faisais allusion, n'est pas une matière première, parce que même si on en trouve partout sur la planète, salée ou douce, eh bien, il n'y a pas encore de marché de l'eau. Certes, par exemple, on rêve de transporter quelques icebergs vers l'Arabie Saoudite, mais ça n'est pas encore fait, et puis ça n'est pas encore un négoce, et puis le temps que ça devienne un négoce, il n'y aura peut-être plus d'icebergs. Donc, l'eau n'est pas une matière première au sens économique du terme. L'air non plus. Même si aujourd'hui il y a des échanges sur le CO2 sur certaines places boursières à Paris, aux États-Unis en particulier. La lentille est une matière première. Les lentilles sont des matières premières, les grands métaux, les grands produits agricoles. Et puis, si on se fixe à la définition que j'en ai donnée, c'est-à-dire des produits reproductibles à l'identique aux quatre coins de la planète et faisant l'objet d'échanges internationaux, on peut à la limite dire que, par exemple, les puces informatiques, les microprocesseurs, sont des matières premières, parce que elles obéissent aux mêmes règles et aux mêmes cycles de hausse et de baisse très violentes que les matières premières historiques, c'est-à-dire que les grands métaux ou les grands produits agricoles comme le blé ou le cacao ou le café.
Et justement, tout de suite, vous venez de parler de hausse et de baisse violentes. Ça se fait sur des marchés? Comment ça fonctionne?
Alors, je dirais, pour faire simple, qu'il y a deux grandes manières de fixer le prix des matières premières. La manière la plus simple, c'est le gré à gré, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur face à face, et il fixe le cours, c'est-à-dire un prix. Et c'est le cas pour certaines des marchandises les plus échangées sur la planète. Par exemple, le riz est échangé de gré à gré, c'est-à-dire qu'il y a un vendeur thaïlandais ou vietnamien, et puis en face de lui, il y a un acheteur américain ou européen, et ils discutent, ils négocient, et ils arrivent à fixer un prix. Alors ces prix sont connus, et on établit des barèmes, on sait que telle qualité de riz vietnamien exportable dans 3 mois ou dans 6 mois vaut tel prix. Mais ça n'est pas un marché financier qui permet d'établir le prix de cette matière première. Il y a une autre grande matière première dont le prix est fixé comme ça, c'est le minerai de fer. Alors là, c'est un peu différent, puisque les grands producteurs mondiaux sont très peu nombreux, au contraire du riz. En gros, il y a deux énormes producteurs de minerai de fer dans le monde, l'Australie et le Brésil. Et donc, tous les ans, il y a des négociations extrêmement tendues et difficiles entre, d'un côté, l'Australie et le Japon, et de l'autre, entre les producteurs brésiliens et les sidérurgistes européens. Et chacune de ces discussions, chacun de ces débats, aboutit à la fixation d'un prix qui fait référence pour tous les autres acteurs. Par exemple, il y a des petits, proportionnellement, de petits exportateurs de minerai de fer, par exemple les Mauritaniens. Eh bien, les Mauritaniens, ils vont caler le prix de leur minerai de fer sur celui qui a été décidé, arbitré, lors du débat entre les Européens et les Brésiliens. Et faut pas s'imaginer que ce sont des discussions qu'on fait sur un coin de table, dans un bistrot, en une demi-heure. Ça peut prendre des mois. Et ça a pris en particulier des mois ces derniers temps parce que, étant donné la soif de minerai de fer de la Chine, eh bien, les quantités disponibles étaient extrêmement limites et dont les prix ont explosé. Et parce que les Brésiliens et les Australiens avaient vraiment un rapport de force qui leur était très favorable, alors que habituellement ils proposaient des hausses de prix qui allaient de 7 à 10% et qu'on négociait sur des demi-points de pourcentage, eh ben, ces dernières années, ils ont imposé des hausses de prix allant jusqu'à 70%. Et c'est pour ça que nous, eh ben, on paye nos produits finis un peu plus cher maintenant.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait deux grandes manières de fixer le prix des matières premières. Le gré à gré, c'est ce dont vous venez de parler. Et la deuxième, alors?
Eh bien, la deuxième, c'est une méthode extrêmement sophistiquée qui se déroule sur ce qu'on appelle les marchés à terme. Quand moi, j'ai commencé à m'intéresser en 1997 à ces questions-là, tous les gens avec lesquels je parlais me disaient le fonctionnement d'un marché à terme, nous, professionnels, y travaillant tous les jours, on a mis 4 ans à comprendre comment ça fonctionnait, en y étant matin, midi et soir. Donc moi, humble journaliste, j'ai essayé de m'approcher de la compréhension, et si j'en comprends bien les mécanismes de manière intuitive, j'ai toujours un peu de mal à les restituer de manière extrêmement didactique et pédagogique. Parce que c'est pas quelque chose que je connais pour l'avoir manié, manipulé, pratiqué de manière très professionnelle. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ces marchés à terme qui sont souvent décriés par les économistes antilibéraux, ce ne sont pas des mécanismes qui ont été inventés par les capitalistes avec un grand C. C'est des trucs qui existent, des mécanismes qui ont été mis au point dans les plaines du Middle West américain en 1848, les premiers. Et même, dit-on, certains historiens ont trouvé l'émergence de mécanismes très proches au Japon au XVIIe siècle. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui ont été mis au point pour permettre aux fermiers de se protéger et aux acheteurs. Alors, tout le monde sait que les productions agricoles répondent à des cycles et que il y a des années qui sont bonnes et pour des raisons climatiques, pour des raisons de fatigue de la terre, et des années qui sont moins bonnes. Et donc, si je suis meunier et que j'ai besoin de fournir toute une panoplie de boulangers tout au long de l'année, leur assurer le ravitaillement, il faudra que, de la même manière, moi, je sois sûr que mes producteurs de blé puissent me vendre le blé dont j'ai besoin, la qualité dont j'ai besoin, la quantité dont j'ai besoin. Et donc, je vais être amené à leur acheter quasiment à l'avance ou à prendre auprès d'eux l'engagement de leur acheter une récolte qui n'a même pas encore été semée, souvent. C'est un risque financier important. Et donc, pour se prémunir contre ce risque financier important, si je suis acheteur de blé, je vais me doter de espèces de bouts de papier qui auront une évolution de valeur inverse à celle de l'opération physique que je réalise. C'est-à-dire que si je suis acheteur de blé, je vais me munir de certificats de vendeur. Et si, entre le moment où je procède à cette opération, eh bien, le prix du blé a augmenté, au moment où je me défraie de ce certificat de vendeur, eh bien, j'aurai gagné de l'argent. Si, lorsque je décide que je vais acheter du blé 6 mois plus tard, eh bien, je fixe un prix avec mon fournisseur. Et si le prix a monté, j'aurai perdu de l'argent en revendant ma farine plus tard, parce qu'il faudra que je monte mon prix. Mais si j'ai mon certificat de vendeur, qui est un certificat totalement fictif, eh bien, à ce moment-là, je m'en défais. Et j'équilibre en quelque sorte la marge. Et donc, si je perds de l'argent sur le physique, j'en regagne sur le papier, ce qu'on appelle le papier. Et c'est l'inverse qui est aussi vrai. C'est-à-dire que je peux gagner de l'argent sur le physique et en perdre sur le papier. C'est toujours cette espèce de gymnastique qui est pratiquée.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Jean-Pierre Boris, qui a écrit un livre qui s'appelle
C'était l'intention.
Inéquitable, le roman noir des matières premières. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué, mais finalement, je me dis que producteur et acheteur, avec des procédés tels que ceux que vous m'avez dit, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est heureux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Bien sûr. Non, pas vraiment. Parce que, en gros, quand on est un énorme producteur de minerais de cuivre, une grande compagnie minière, oui, on peut s'en sortir. Mais c'est le gigantisme et la taille qui crée un rapport de force sur le marché et qui permet effectivement de s'en sortir. Je veux dire, ces instruments financiers extrêmement compliqués, sophistiqués, qui font appel à beaucoup de matières grises, ils sont évidemment pas à la portée du petit producteur de café analphabète des hauts plateaux africains ou à celui d'Amérique centrale. Donc non, les, je veux dire, il y a vraiment sur ces marchés des matières premières agricoles en particulier deux poids deux mesures, c'est-à-dire que il y a des gens encore que ça tente à se réduire qui ont accès à l'information et d'autres qui n'ont pas accès à l'information, même si aujourd'hui avec les techniques modernes, par exemple en Indonésie, les producteurs de cacao sont très au fait, qui sont les deux ou troisièmes selon les années producteurs au monde, eh bien ils sont parfaitement au fait de ce qui se passe sur les marchés et de l'évolution des cours. Mais c'est certain que quand on est un petit producteur de café d'Amérique centrale ou un petit producteur de cacao de Côte d'Ivoire, eh bien on est à la merci des intermédiaires, des négociants, des grands acheteurs qui eux peuvent jouer sur les marges et pour lesquels le prix n'est pas une condition de survie au jour le jour. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de négociants qui se cassent la gueule. Ça c'est clair, parce que ces marchés sont extrêmement volatiles, c'est-à-dire qu'ils bougent beaucoup sur le plan financier, qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à spéculer, même quand leur travail est fondamentalement d'acheter ou de vendre et de vendre du café, du cacao et d'autres produits. Eh bien, ces gens-là s'amusent à jouer sur les bourses des matières premières, et souvent ça se retourne contre eux parce qu'on n'y gagne pas tous les coups, bien loin de là. Mais je veux dire, ce sont des risques calculés. C'est pas leur peau en dépend pas. Ce sont des gens qui réussissent toujours à retomber sur leurs pattes, alors que quand on est un producteur isolé, on n'a pas ce poids-là et ces aptitudes-là.
Quand vous dites spéculer, comment on fait pour spéculer sur les matières premières ?
Ah bah c'est très simple. Moi donc, qui faisais une chronique des matières premières sur RFI tous les jours avant de faire ce bouquin, on me disait alors, t'as acheté un cargo de pétrole ? Je me disais non, je suis le dernier imbécile. Mais oui, j'aurais dû acheter un cargo de pétrole il y a 3-4 ans, et puis aujourd'hui, eh bah, j'aurais fait fortune parce que les prix ont été multipliés par 5, 6, 7. Et donc les gens qui avaient acheté du pétrole, soit du pétrole physique, c'est-à-dire un cargo, en disant « ben je le garde », puis qu'ils vendent 6 mois plus tard, ben, ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'argent. Mais comme le pétrole, depuis environ 25 ans, est aussi négocié sur les marchés à terme et qu'on peut acheter du pétrole papier, eh ben les gens qui ont acheté du pétrole papier il y a 2 ans et demi puis qui l'ont revendu un an plus tard, eh ben ces gens-là, ils ont aussi amassé des fortunes considérables. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des titres de pétrole papier à l'achat et à la vente, et donc ils ont poussé les prix à la hausse ou à la baisse. Et là, ils ont beaucoup joué à la hausse, évidemment. Parce que il y avait la demande chinoise, il y avait les craintes de ce qui se passait au Proche-Orient, et tout le monde était extrêmement réactif, extrêmement inquiet de ce qui pouvait se passer sur le marché mondial du pétrole. Et les spéculateurs ont aussi mis beaucoup de billes là-dedans. C'est-à-dire que après les années 2000 et le krach des valeurs technologiques, beaucoup de grands fonds d'investissement ont reporté leurs billes sur les matières premières. Et comme la Chine a créé une espèce d'ambiance de rareté, de tension sur ces produits, eh bien, les fonds d'investissement sont allés à la rescousse de la hausse. C'est-à-dire que plus ça montait, plus ils mettaient d'argent. Et puis, on est encore dans une phase très haussière, avec des métaux, par exemple, dont les prix à Londres ou à New York ont atteint des records historiques ces derniers temps. Donc, ces fonds d'investissement, quand ils ont réussi à acheter dans la hausse et à revendre toujours dans la hausse, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais les producteurs aussi. Hein, les grandes compagnies minières ont fait des bénéfices records. Donc, c'est pas simplement, si vous voulez, le fait de la rareté. C'est aussi que les fonds d'investissement ont placé beaucoup d'argent, des milliards de dollars, sur ces placements-là.
Et sur d'autres produits dans lesquels les producteurs sont des petits producteurs. J'ai lu dans votre livre qu'il y avait si j'ai bien compris, c'était justement avant des moyens de stabilisation qui permettaient d'aider les petits producteurs, justement.
D'essayer de les aider parce que ça a coulé, parce que finalement, ça ne marchait pas très bien, et puis ça avait des raisons d'être un peu politiques parfois. Dans les années 60-70, existait, et puis ça a disparu peu à peu au fil des années 80, et pourrait disparaître complètement au tout début des années 90, existait des fonds de stabilisation ou des caisses de péréquation, c'est-à-dire des institutions soit internationales, par exemple pour le café, soit nationales pour le cacao en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça s'appelait la caisse de stabilisation, la Caisse-Stable, qui cherchait à lutter contre les effets de hausse brutale ou de baisse brutale des prix. C'est-à-dire que, par exemple, quand les prix étaient très hauts, ça voulait dire qu'il n'y avait pas assez de café ou pas assez de cacao. Et donc, on injectait sur le marché de la marchandise. Parce qu'il y avait un stock qui avait été créé et qui jouait un rôle de sas. C'est-à-dire, quand les prix étaient bas, ça voulait dire qu'il y avait trop de café ou de cacao. Cette institution l'achetait, achetait des milliers de tonnes. Et quand les prix étaient hauts, on relâchait. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ces organisations regroupaient un très grand nombre de pays, que ce soit des pays producteurs ou des pays consommateurs, et il était extrêmement difficile d'aboutir à des accords sur les quotas de production. Par exemple, quand vous aviez autour d'une table les Brésiliens, les Colombiens, le Mexique, les pays d'Amérique centrale, certains pays asiatiques et africains, pour savoir si on allait mettre la barre à tel niveau ou à tel niveau, eh bien, ils n'étaient jamais d'accord. Et puis, quand une décision avait été prise par tous ces pays-là, il y en a beaucoup qui ne la respectaient pas. Donc, finalement, ces accords de produits, si vous voulez, ont pris l'eau et ont disparu. Et de manière souvent assez brutale, ça a laissé les petits producteurs à la merci de ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire des évolutions brutales de prix, à la hausse ou à la baisse. Et ce qui veut dire qu'il est assez difficile pour ces gens-là de prévoir comment ils vivront. En général, ils vivent assez mal.
Mais ça a disparu comme ça ou c'était
non, ça a été un lent processus. Mais par exemple, à la fin des années 80, au début des années 90, les Américains se sont retirés de l'Organisation internationale du café. Et on peut remarquer, je le fais dans ce livre, que c'est concomitant quasiment avec l'effondrement du mur, avec la chute du monde communiste. Or, l'une des raisons pour lesquelles les Américains soutenaient cette Organisation internationale du café et soutenaient les cours du café, c'est qu'ils tenaient un minimum de stabilité dans leur arrière-cour, dans les pays au Mexique, en Amérique centrale, et qu'avec des cours du café stables et plutôt confortables, ils estimaient bien que la paysannerie de ces pays-là ne tomberait pas dans les mains des communistes ou des sandinistes. Ce qui n'était pas un calcul totalement faux. Mais donc à partir du moment où l'URSS s'est effondrée, a été rayée de la carte, où la menace communiste a disparu, eh bien les Américains ont semblé ne plus estimer avoir à soutenir les cours du café, et que si les paysans d'Amérique centrale avaient à se plaindre, ils ne tomberaient pas dans les mains d'un ennemi politique redoutable pour la Maison-Blanche.
Par exemple, est-ce que des institutions comme l'OMC, par exemple, cherchent à réguler à nouveau de façon à pouvoir soutenir ces petits paysans ?
Non, ça n'en fait que, sauf par exemple, l'OMC n'intervient que sur les produits qui lui ont été soumis, par exemple le coton. Il y a une grande bagarre sur le coton, il y a une grande bagarre sur le sucre aussi, sur les prix du sucre, sur les prix du coton. Mais, je veux dire, l'OMC, c'est un arbitre. Donc, ils fixent quelques règles, mais par exemple sur le coton, les Brésiliens ont remporté quelques victoires, mais ça n'a pas permis de manière fondamentale au prix de remonter, parce que la bagarre c'était est-ce qu'on arrive à obliger les Américains à réduire leurs subventions. Sur certaines de leurs subventions, ils ont reculé, mais pas sur l'ensemble du dossier. Et donc pour ce qui est des prix, ils n'ont pas évolué de manière fondamentale. C'est-à-dire que les Américains continuent toujours à déverser des volumes très considérables de coton sur le marché mondial, sans que leur prix de revient soit en rapport réel avec le prix de vente.
J'avais une toute petite dernière question, enfin si on peut dire, parce que je suis pas sûre que ce soit seulement une petite question. Est-ce qu'une des solutions finalement pour apporter un certain soutien aux petits producteurs, est-ce que c'est le commerce équitable ?
Non, absolument pas. Enfin, je veux dire, ici et là, ça peut apporter un peu de baume au cœur de mieux-être. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout la solution qu'on cherche à nous vendre en France et dans les pays occidentaux. Je dirais, ça met plus de baume au cœur des consommateurs que nous sommes que des producteurs qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est un cautère sur jambe de bois, c'est une toute petite goutte dans l'océan du monde économique international, mais ça n'est en aucun cas un remède à tous les maux dont souffre la planète des matières premières agricoles tropicales, café, coton, cacao, etc. Quand on voit les volumes, par exemple, du coton équitable, c'est à hurler de rire par rapport à la masse colossale de coton qui se produit sur la planète. Quand tel ou tel producteur de vêtements français en Bretagne, par exemple, se vante de faire des t-shirts en coton équitable, mais c'est une vaste rigolade, parce que qui imagine que les Chinois, par exemple, vont se mettre à produire ou à acheter du coton équitable, alors qu'ils sont en plein développement, qu'eux-mêmes produisent des montagnes de coton, qu'ils sont des commerçants redoutables, et que 80% des habits qu'on porte viennent de chez eux. Donc le coton équitable, ou le café équitable, ou le cacao équitable, c'est une supercherie.
Eh bien, c'était des sous et des hommes. On était en compagnie de Jean-Pierre Boris. Il a écrit Le commerce inéquitable, le roman noir des matières premières, avec un style journalistique. Ça change des livres d'économistes, hein, ça fait un peu de bien. Et donc, je vous en conseille la lecture. C'est donc Hachette Littérature et c'est aux co-éditions, visiblement, Hachette Littérature RFI.
Absolument.
Et la semaine prochaine, étant donné que ça sera le lendemain de Noël, et puis la semaine encore d'après, ça sera le lendemain du jour de l'an. Enfin bref, je vous propose une rediffusion. Ça sera Jacques Sapir, si je me souviens bien, ou alors Jean-Luc Gréaume, mais vraiment deux intervenants de grande qualité. Et puis pour la nouvelle année, on écoutera Francis Wurtz sur la directive Bolkestein. L'affaire est un petit peu fichue, mais ça vaut quand même le coup d'écouter. À la semaine prochaine.